Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut. Salut à toutes et à tous. L'analyse du spectre infrarouge d'un quasar jeune suggère que les trous noirs supermassifs et leurs mécanismes d'alimentation étaient déjà complètement matures lorsque l'univers avait 5% de son âge actuel, c'est-à-dire environ 760 méganées. Une équipe de chercheurs a en effet trouvé un quasar énergisé par un trou noir de 1,5 milliard de masses solaires à un redshift de 7,08, et ils publient leur découverte dans Nature Astronomy. Les étoiles et les galaxies ont énormément changé au cours de la vie de l'univers, à mesure que la fusion stellaire a généré de plus en plus d'éléments chimiques lourds et que les galaxies se sont développées en consommant le gaz environnant. En revanche, des trous noirs supermassifs d'une masse de plus de 1 milliard de masses solaires existaient déjà lors de l'aube cosmique, qui a commencé environ 100 millions d'années après le Big Bang. Et la manière dont ils sont arrivés là reste un petit mystère. De plus, les propriétés des quasars qui les abritent, métallicité, force des écoulements et luminosité, sont étrangement très similaires ou identiques à celles des quasars observés dans l'univers actuel. Les observations de quasars à un redshift supérieur à 7, avec des instruments optiques et dans le proche infrarouge, correspondant à de l'ultraviolet au repos pour les quasars, ont révélé une image complexe. Les larges raies d'émission ultraviolettes des quasars de redshift compris entre 5,7 et 7,5 sont identiques dans leur luminosité et leur rapport de flux à ceux des quasars plus proches de nous, avec un redshift entre 2 et 5, ce qui indique des niveaux inchangés d'enrichissement en métaux des régions à raies larges des quasars, donc sur une période cosmique de 2,6 milliards d'années. Pour tenter de résoudre cette énigme, Sarah Bosman de l'université de Heidelberg et ses collaborateurs se sont tournés vers les propriétés dans l'infrarouge moyen des premiers quasars, qui contiennent des informations inédites sur les mécanismes de leur alimentation, à partir d'un torre environnant de gaz et de poussière, et sur la région des raies larges, formées par des amas de gaz qui gravitent autour du trou noir à des vitesses relativistes. Leur cible, le quasar brillant qui s'appelle J1120+0641, avait été le premier découvert à un redshift supérieur à 7. C'était en 2011, par Mortlock et collaborateurs. La valeur de son redshift est exactement de 7,0848. Il avait donc déjà été la cible d'observations approfondies à multilongueur d'onde, ce qui justifiait aussi son inclusion comme cible prioritaire pour les observations à temps garanti dans le cycle 1 du télescope Webb. Alors à ce jour, seulement 9 quasars sont connus avec un redshift supérieur à 7. Les chercheurs ont effectué leurs observations de J1120+0641 avec Webb le 12 janvier 2023 en utilisant le spectrographe MRS de MIRI. Le spectrographe fournit une spectroscopie de champ intégral couvrant la plage de 4,9 à 27,9 microns avec une résolution spectrale intermédiaire. Les observations couvraient toute la gamme spectrale du MRS avec un temps d'intégration de 3153 secondes par configuration. Il y en avait 3. Bosman et ses collaborateurs se sont demandé s'il était possible que les premiers quasars aient été plus efficaces que prévu pour accréter le gaz environnant, ou bien si les quasars aient été plus affectés par l'extinction des poussières que prévu. Dans ce dernier cas, leur masse réelle aurait été largement surestimée. De nombreuses manières d'accélérer la croissance des premiers quasars ont été proposées, ce qui aurait des conséquences sur leur lumière dans l'infrarouge moyen. Les astrophysiciens ont utilisé donc l'imageur MIRI de Webb qui est le premier instrument capable de capturer les spectres des premiers quasars dans les longueurs d'onde de l'infrarouge moyen. Sa sensibilité est 4000 fois supérieure à celle du précédent meilleur spectrographe infrarouge moyen. C'était celui du télescope spatial Spitzer. Grâce à MIRI, Bosman et son équipe ont donc réussi à obtenir le premier spectre d'un quasar à Z élevé dans l'infrarouge moyen et aussi accessoirement à détecter le tore chaud du quasar en mesurant sa température et sa masse. Ils ont également détecté les raies de l'hydrogène de la série de Passion dans la région des raies larges, en vérifiant leur densité, leur niveau d'ionisation, et donc indirectement la masse du trou noir. Et ils trouvent une masse de 1,52 milliard de masses solaires. Et on rappelle qu'on est ici 760 méganées après le Big Bang, hein, c'est-à-dire environ 650 méganées après l'apparition des toutes premières galaxies. Toutes les propriétés mesurées de J1120 plus 0641 sont presque identiques à celles des quasars des époques ultérieures. La seule légère anomalie est une température élevée de la poussière du Thor. Mais les chercheurs notent que quelques quasars ont récemment été observés avec des poussières encore plus chaudes. Dans l'ensemble, les observations ne font qu'ajouter au mystère. Le trou noir supermassif lui-même, mais aussi ses mécanismes d'alimentation, semblent ici déjà complètement matures, alors que l'univers n'a que 5% de son âge actuel. Pourquoi les galaxies évoluent-elles, mais pas les trous noirs supermassifs ? Eh bien, les résultats de Bosman et collaborateurs font fortement pencher la balance vers l'idée selon laquelle les trous noirs supermassifs sont primordiaux ou bien de grande taille dès le départ, c'est-à-dire qu'ils se sont formés très tôt avec des masses d'au moins 100 000 masses solaires dès leur naissance, au lieu de se former à partir des restes d'une étoile précoce et de croître très vite. Selon les chercheurs, l'assemblage précoce de ce quasar particulier n'implique pas que tous les trous noirs supermassifs soient matures à l'aube cosmique, mais ça implique qu'il existe un mécanisme par lequel au moins un quasar moderne peut se développer en très peu de temps. Ils ajoutent qu'il est impossible de dire s'il existe une tendance dans la température du Thor à des époques antérieures sur la base d'une seule observation spectroscopique. Alors en résumé, les structures de poussière du Thor chaud et d'hydrogène de la région des raies larges de J1120 plus 0641 sont impossibles à distinguer des quasars ultérieurs. Les observations démontrent que les structures complexes de ces zones du quasar peuvent s'établir autour d'un trou noir supermassif moins de 760 méganées après le Big Bang. Cette évolution rapide semble imiter d'ailleurs l'enrichissement rapide en métaux qui est observé dans les premiers quasars hein, et qui peut atteindre les valeurs actuelles à un redshift de 6. En outre, aucune preuve d'effet d'obscurcissement n'a été trouvée, des effets hein, qui fausseraient les mesures de la masse du trou noir et du taux d'accrétion du quasar. Il n'y a aucune preuve, ni dans le Thor poussiéreux, ni dans la région des raies larges d'hydrogène, que J1120 plus 0641 ait récemment subi une phase très obscurcie, ni aucun signe d'activité récente d'accrétion de type Super Eddington. Une observation plus approfondie d'autres quasars à l'aube cosmique, avec MIRI toujours bien sûr, sera cruciale pour confirmer cette première observation. Heureusement, trois autres quasars précoces ont récemment été observés à l'aide de MIRI et Bosman et ses collègues sont visiblement très impatients de les analyser. On devrait donc bientôt voir de nouveaux jeunes quasars se dévoiler sous nos yeux. L'article de Sarah Bosman et ses collaborateurs est paru dans Nature Astronomy le 17 juin 2024. Ça devait être hier. Et il porte le titre un quasar mature à l'aube cosmique révélé par le télescope Webb par spectroscopie infrarouge. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur terre. Allez, salut!